Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 43e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno ou la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Nous avions parlé des débuts du punk rock, beaucoup des Sex Pistols, et nous avions fini par dire qu'un groupe avait révolutionné le genre quand il commençait à s'essouffler. Mais retournons un tout petit peu en arrière pour parler de ses débuts. Donc voilà, 1976, la Grande-Bretagne semble endormie, tout est orange, marron ou jaune moutarde. Les Britanniques sont renfermés sur eux-mêmes, sur leur petite île. Le pays est dans une atmosphère rétrograde en ces temps modernes. Les gens s'ennuient et les jeunes ne comprennent pas pourquoi ils sont gouvernés par des gens qui ressemblent à la pire espèce de bureaucrate tout droit sorti des années 50. La musique aussi est devenue chiante, avec tout le glam rock qui devient une parodie de lui-même, et le prog rock et ses solos beaucoup trop longs et élitistes. Mais le punk vient réveiller le pays. On en a parlé avec l'arrivée des Sex Pistols.
Now Elvis, Beatles, all around it's down. In 1977,
parallèle, en avril 77, un autre groupe sort son titre 1977. Ce sont les Clash. La chanson capture très bien l'esprit de l'époque qui veut faire table rase du passé récent et revenir aux bases du rock. Trois accords, des chansons de 3 minutes, jouées fortes et rapides. Être punk en 77, c'est te mettre en opposition avec la société par tous les moyens possibles. Un de ces moyens, c'est les vêtements. On en avait parlé, cuir, accessoires SM, teinture pour colorer ses t-shirts ou ses cheveux. De toute façon, ces gens n'avaient pas de travail et n'en trouveraient pas. Donc à quoi bon être présentable ? Le punk étant devenu un ennemi de la nation, les pubs n'en programment plus. Plus personne ne veut faire jouer ces groupes qui cherchent désespérément avec les fans un lieu, un chez-soi. Et c'est au milieu de Covent Garden qu'ils le trouvent.
London's burning!
Les seuls gens qu'on y croisait là-bas étaient donc des punks et des amateurs d'opéra, une ambiance un peu lunaire. Le Roxy était l'un des pèlerinages punk par excellence à l'époque. Le Roxy, c'est là où la nouvelle culture punk va pouvoir développer d'autres codes. Pourquoi bouger la tête quand on peut sauter en l'air et faire des pogos ? Pourquoi applaudir quand tu peux cracher ? Le gobbing devient le nouvel applaudissement. Se recevoir de la bière ou même des molars crachés par le premier rang est la consécration maintenant. Mais même si elle avait une cause commune et une maison, la scène punk était loin d'être unie joyeusement. Les groupes sont constamment en compétition et chacun est le meilleur pendant que les autres sont tous trop nuls. Tout le monde veut faire mieux que les Pistols. Et quand la scène commence à être trop codifiée, un groupe de chez Water rajoute son grain de sel en apparaissant original face à ses concurrents. Les Jams ont la même énergie sur scène que les autres punks, mais eux, un peu Mods Revival, sont tous en costard sur scène. Pas d'épingle ou de Doc Martens, mais bien une chemise et une cravate. De plus, les autres reviennent surtout de la classe moyenne, voire supérieure, sorte d'école d'art, alors que les Jams, eux, viennent d'une classe un petit peu plus ouvrière, et ça s'entend dans leurs propos. Même s'ils apparaissent comme des outsiders de la scène punk, les Jams ont bien été influencés par elles. Les Pistols font des chansons courtes et piquantes, les Jams aussi. Les Clash et Joe Strummer écrivent des choses qui font regarder le monde autour de soi, les Jams aussi. En mai 77, ils sont sur Top of the Pops à la télé. Quand l'industrie musicale commence à s'intéresser au potentiel commercial du punk, un conflit intérieur survient. Rester indépendant ou toucher plus de monde? C'est sûr qu'être bien distribué est tentant, mais les gros monstres capitalistes, on sait ce que c'est. Ils viennent dire « On vous aime bien, on aime bien ce que vous faites, venez chez nous, signez ce contrat ». Et là, tout de suite après, quand on est prisonnier de cette signature, c'est toute une liste de demandes en tout genre qui viennent dénaturer l'artiste et son art. En 77, l'attitude et la réputation des Sex Pistols leur a déjà valu de se faire virer de 2 labels. les Clash signent chez CBS. Même débat interne au groupe que le punk en général. Est-ce que ça vaut le coup de signer et propager leur message, ou vaut-il mieux rester en label indep et continuer de prêcher au même groupe restreint de convaincus? Joe Strummer dit qu'il faut aller dans le business. Faut pas faire comme les hippies qui restent dans leur coin et personne connaît. Si on veut propager une parole, il faut le faire avec le vrai monde. Et le vrai monde, c'est le business. En 1977, les Clash embarquent sur le White Riot Tour avec les Buzzcocks, Subway Sec et les Slits. La tournée va en faire rapidement la nouvelle voix des jeunes générations britanniques. Les concerts sont blindés, les gens déchaînés, les groupes doivent payer pour la casse dans les salles. Le terme White Riot aussi est très mal compris. Beaucoup pensent que les Clash incitent à la haine raciale, alors qu'au contraire, White Riot est une incitation pour que les Blancs regardent enfin ce que leurs frères noirs subissent et se révoltent avec eux contre l'establishment. Et oui, souvenez-vous, les épisodes sur le reggae, il est sur le devant de la scène à cette époque, et il conteste aussi le monde et le système. Le punk aime bien le reggae, ils aiment les basses, ses discours anti-establishment. Et ils sont pas contre la weed non plus. Dans les concerts, les DJ comme Don Letts sont invités à jouer entre les sets des groupes, le temps des changements de plateau. Et comme il n'y a pas encore beaucoup de disques de punk sur le marché, ils jouent ce qu'ils ont eux, qui vient de leur culture, c'est-à-dire du roots et du dub, qui imprègne donc les jeunes punks présents. Ce qui va influencer leur musique. Une des chansons phares du White Riot Tour sera White Man in Hammersmith Palais. En intégrant du reggae dans leurs écritures, les Clash repoussent les limites du punk. Ce qu'ils comprennent du reggae et créent un nouveau genre, comme les Jamaïcains ont créé le ska en faisant ce qu'ils comprenaient du R&B dans les années 50 et 60. Mais on va y revenir plus tard. En 77, c'est le Jubilee, et les Pistols sortent leur fameux God Saves the Queen. On en a déjà parlé. Le groupe crée tellement la controverse qu'il se fait agresser dans la rue. Les concerts deviennent violents, la police réprime, McLaren les traite de porcs fascistes et plus personne ne veut les booker. Le cas des Pistols reflète toute la scène qui devient violente et toxique en fait. Des Teddy Boys sillonnent les rues et tabassent les gens. Une guerre a lieu entre différentes tribus pour une raison ou une autre. Mais il y avait plus que du chauvinisme adolescent. Les tensions raciales montent et, 2 mois après le jubilé, à Lewisham, au sud de Londres, l'Anti-Nazi League clash violemment avec le National Front qui parade avec ses slogans racistes. Les antifascistes ont peur, vraiment, qu'on puisse rassembler tous les gens de couleur pour les « renvoyer chez eux », entre guillemets, comme disent les fachos. C'était même pas tellement pour défendre leur société multiculturelle, c'était surtout parce que les gars en face étaient déjà en train de construire des bateaux. De grosses émeutes éclatent et même dans les concerts, ça devient dangereux. Face à tout ça, une nouvelle génération de groupes de punk voit le jour. Et elle se concentre sur le prolétariat. Comme avec les Jams, ça marque une césure avec les Sex Pistols et leurs fans de classe moyenne d'école d'art. Sauf que là, c'est vraiment des prolos. Si la première vague de punk était la théorie, la seconde était la mise en pratique. I don't wanna work in no factory, and I don't want no spag, and I don't want no double shoes. Pour beaucoup, les parrains de cette nouvelle vague se nomment Sham 69. Ils parlent directement aux pauvres des quartiers difficiles, ouvriers, parce qu'ils viennent eux-mêmes de là-bas. Beaucoup les considèrent donc comme les punks par excellence. Mais cette proximité avec les classes modestes va commencer à ramener dans les concerts des éléments indésirés. Le National Front et le British Movement, en bons populistes fascistes, voient dans ces rassemblements de jeunes prolos la plateforme de recrutement parfaite. Jimmy Percy, le chanteur des Sham 69, se retrouve donc, sans le vouloir, l'égérie d'une extrême droite qui monte. Le mouvement Skinhead a été bien récupéré également. Mouvement à la base antiraciste et populaire, maintenant les crânes rasés et les Doc Mountains renvoient à l'image d'une haine de l'autre. Et ça, c'est inadmissible pour Jimmy, qui écrit en 78 « If the kids are united ». We'll be right back. Par cette musique, il veut faire passer le message à son public prolo, qu'ils n'ont pas besoin de devenir racistes pour faire face à la situation sociale et politique du pays, qu'il y a une autre voie, un autre prisme, et qu'il faut rester unis. Plus dur, plus rugueux et moins école d'art que la première vague, c'est donc la seconde vague qui reflète le mieux la situation du Royaume-Uni de l'époque. En Irlande du Nord, des groupes comme Stiff Little Fingers revenaient aux bases de la rhétorique révolutionnaire punk. L'ennui, les couvre-feux, les fusillades, les attentats, cette Irlande divisée n'offre pas beaucoup d'espoir aux jeunes qui s'emparent donc très bien de la philosophie punk. Loin de la hype londonienne, le punk semblait faire encore plus sens. Les jeunes se rebellaient contre quelque chose qui était bien là, visible et palpable. Malgré ça, en 78, un sentiment monte que le nihilisme du punk n'était plus qu'un costume. Ce n'était plus qu'une mode, les gens s'habillaient de manière ridicule. Et certains portent des brassards ou des t-shirts nazis. On pense à Sid Vicious, juste par fausse provoque. Parce que c'est à la mode, alors que le punk est censé rejeter la mode. Des parodies populaires surviennent à la télé et le punk devient aussi orthodoxe que le monde qu'il avait juré de détruire. Il faut s'habiller de telle ou telle manière, boire des snake bites, vomir partout et cracher sur les autres. Ce sont bien des règles qui se sont mises en place. Les Pistols, qui n'arrivent plus à jouer en Angleterre, sont partis faire une tournée aux États-Unis. Après avoir choqué et s'être presque fait tuer dans les États du Sud, de l'Amérique profonde, ils jouent leur dernier concert à San Francisco, à la fin duquel ils annoncent arrêter le groupe. Pour beaucoup, le punk est mort ce jour-là. Mais voilà, le punk était sur le devant de la scène, mainstream et accepté. Son nihilisme et son anarchie, qui étaient à la base, l'avaient mené à sa perte. Et c'est dans cette atmosphère que les groupes présents se demandèrent où aller après ça. Et oui, on finit cet épisode comme le précédent, avec London Calling des Clash. Mais promis, on en parle vraiment la prochaine fois. Subculture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM, ou sur les applis Radio Line et les radios associatives pour smartphone. Ou encore via l'onglet Écouter le direct sur le site radiofmplus.org. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes précédents sur le même site en podcast en tapant Subculture dans la barre de recherche du site. Et moi je vous dis à plus, et punk's not dead. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. Nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is drowning out.